Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà. Deux, c'est-à-dire être un don pour la bénédiction des autres. Devenir une source de bénédiction. Mes frères et mes sœurs, quand on cherche à être une source de bénédiction, notre façon de penser change automatiquement. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que quand je viens, par exemple, ici, disons, dans ce pays, en France, parce que, bon, il y a la France, il y a la Belgique, je ne me vois pas comme une personne qui bénéficie seulement. Donnez-moi, donnez-moi. Donc, je ne bénéficie pas seulement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je cherche à ce que les autres bénéficient. C'est-à-dire que je suis un don. Je marche comme un don. Un don, c'est-à-dire que je suis une bénédiction. Seigneur, je suis une bénédiction pour ce pays. Je m'inculque cette notion. Je suis une bénédiction. Je suis là parce que Dieu m'a placé ici, parce que je suis une source de bénédiction pour ce pays. Je ne viens pas seulement, je sais que Dieu m'a déjà affranchi, je sais que ma vie a déjà changé, je ne cherche pas à m'enrichir, je ne cherche pas à avoir le bien de ce monde. Non. Je suis une source de bénédiction pour ce pays. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas la mentalité d'être un don, nous allons toujours chercher à bénéficier. Donnez-moi. Et l'esprit, cet esprit-là de toujours bénéficier, ça pousse aux gens à commencer à s'abuser du ministère, à s'abuser du pouvoir. Parce qu'ils ne se sentent pas un don. Il ne voit pas qu'il est là placé pour être une bénédiction. Non, il voit qu'il est placé là, c'est pour s'enrichir, c'est pour son ventre. Je ne sais pas si je fais comprendre. Mais si je parle de moi comme ça un peu, c'est pour que nous puissions comprendre. Amen. Je suis un don. Bien sûr, être un don, il faut vraiment toujours travailler dans sa mémoire, dans sa mentalité. Toujours répéter que je suis un don et voir que je suis un don. Amen. Mes frères et sœurs, si on se voit don, Dieu va commencer à nous utiliser comme un don. Amen. Dieu va commencer à m'utiliser comme un don. C'est-à-dire, je ne cherche pas à bénéficier des autres, mais je cherche à être une bénédiction pour eux. Il y a des gens en France ici que je fréquente, que je visite. Pourquoi? Parce que je sais que je suis un don pour eux. Je sais que quand je entre dans leur maison, je suis un don pour eux. Il n'y a pas de problème pour me déplacer, aller plus loin, parce que je suis un don. Mais c'est une autre façon de penser. Je suis allé dans une famille, ici en France, je suis allé dans une famille, on a commencé à prier pour eux, tout ça. Et la dame qui était là, elles sont habituées que quelqu'un vient prier, ils vont faire un chèque hein, et lui donner. Moi j'ai dit, mais pourquoi? Est-ce que moi j'ai besoin d'un chèque? Est-ce que j'ai besoin que vous me donnez l'argent? Si moi je suis un don. Donc, pourquoi? Parce que la pensée de cette personne était que bon, s'il est venu, elle sentait un sentiment là de comme de culpabilité qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Bon, bien sûr, on peut recevoir une bénédiction, mais il ne faut pas que les gens pensent que je fais ça pour qu'ils recevoir ça. Vous comprenez? S'ils peuvent donner, gloire à Dieu, c'est pour le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas que les gens pensent que voilà, le fait qu'il est venu, le fait qu'il est là, qu'il va prier pour moi, qu'il tout ça, que moi je dois en échange lui donner l'argent ou bien lui donner faire un chèque, tout ça. Non, 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 non. Je suis un don. Amen. Je suis une bénédiction pour lui. Je suis une source de bénédiction. Il y avait un moment qu'on était avec mon épouse, quand on était en l'Est, il y avait un moment où Dieu commençait à nous bénir. Et il y avait des gens qui nous donnaient de l'argent, qui nous donnaient de l'argent, qui nous donnaient de l'argent. Et il y avait des moments où on ne savait pas quoi faire avec cet argent. Et on a compris que c'était pour le transmettre aux autres. Et Dieu touchait directement. Voilà, il y a cette famille qui est dans le besoin. Voilà, il y a cette famille qui est dans le besoin. Voilà, et ceux-là sont dans le besoin. Voilà, ceux-là sont dans le besoin. C'est-à-dire qu'on a commencé à recevoir pour bénir les autres. À recevoir pour bénir les autres. On était comme un canal. Dieu aujourd'hui cherche des canals. Il cherche des gens à travers lesquels il peut toucher la nation. Il peut toucher le pays. Amen. C'est que de ma responsabilité, c'est de lui donner cette facilité de pouvoir toucher la France. D'être un don. Je dis, Seigneur, je suis un don. Oh, 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 ok. Si tu es un don, je vais t'utiliser. Je ferai traverser les richesses pour que tu puisses toucher ce pays. Je ferai traverser de l'onction. Je ferai traverser tout pour que tu sois une bénédiction pour ce peuple. Amen. Alléluia. Mais quand je n'ai pas cette mentalité-là, toute personne, je verrai. Je chercherai comment je peux avoir de cette personne-là. Toute personne qui se retrouve là, devant moi, je chercherai comment je peux bénéficier de cette personne. Non, c'est une très mauvaise mentalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vraiment travaille avec nos cœurs. Amen. Que nous puissions toujours garder nos cœurs dans le ministère, garder nos cœurs. Que notre cœur soit toujours dans l'humilité, que Seigneur, tu m'as appelé, j'ai cherché, je garderai mon cœur pour que mon cœur ne soit pas rempli d'autres valeurs, que seulement les valeurs du royaume de Dieu remplissent mon cœur. Amen. Alléluia. Nous allons encore parler de l'église après. Ok. Donc on a dit, c'est le numéro D, que avoir la mentalité du royaume, c'est être un don, être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Être une source de bénédiction, être un don, c'est un niveau de maturité. Je peux aujourd'hui ne pas avoir quelque chose de bien. Je ne peux aujourd'hui, ne pas avoir tout ce que les gens ont. Mais je suis un don pour eux. Amen. Je suis un don pour eux. Je m'appelle, je donne l'exemple, notre pasteur, il y avait un jour, il y avait des Américains qui sont arrivés, ils ont visité son appartement. Quand ils sont rentrés dans son appartement, mais ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, toi, pasteur d'une grande église, une grande église, comment tu peux vivre dans de telles conditions? Il a dit que non, moi je suis un don pour ce peuple. Donc il vivait dans des conditions vraiment pas de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait sacrifice, il a donné sa vie complètement pour que le peuple soit béni. Amen. Donc il s'est dit que je suis un don pour ce peuple. C'est-à-dire que je ne cherche pas mon intérêt, mais je cherche leur intérêt. Je cherche leur bien-être. Être un don, c'est-à-dire aussi être une échelle pour que les autres puissent arriver à leur terre promise. Amen. Comme un escalier, voilà, je suis là. Et les gens doivent, à travers ma vie, ils doivent aujourd'hui trouver leur terre promise. C'est-à-dire quand les gens tombent dans mes mains, en tout cas, ils doivent changer. Et leur vie va changer positivement. Et plus je fais ça pour les autres, plus je suis béni. Ça, c'est le principe du royaume. Amen. On ne peut pas éviter les bénédictions si on est une source de bénédiction. Aujourd'hui, on est vraiment avec mon épouse, on est vraiment très réjouis. Quand on entend, par exemple, on était directeur de l'école biblique à Kiev, il y a plus de 500 étudiants qui sont passés à travers nous. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs, aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise, aujourd'hui, il y a des gens qui ont, ouvert leur association, ils sont partout dans le monde. Et aujourd'hui, quand on parle avec eux, mais mes frères et mes sœurs, c'est vraiment la joie, on se réjouit. Quand on parle avec eux, ils nous rappellent. Parce que vous vous rappelez, quand on venait, quand on était tous de rebelles, quand on ne vous écoutait pas, on était désobéissants, tout ça. Et dit, pasteur, tout ce que vous nous avez enseigné, ça nous aide aujourd'hui. Amen. Mes frères, c'est une bénédiction quand vous voyez le fruit du travail que vous avez fait. Même si autrefois, ils ne pouvaient pas, ils étaient désobéissants, mais il y avait une semence qui était tombée dans leur cœur. Amen. Et aujourd'hui, cette semence porte de fruits. Alléluia. Parce que j'ai changé de ma façon de penser. Je suis un don pour les autres, pour ce peuple. Alléluia. Mais si ce n'est pas facile, il faut travailler pour ça. Pourquoi? Parce que des fois, quand on se retrouve dans le besoin, on veut recevoir quelque chose. C'est pour ça que nous devons toujours changer notre façon de penser. Mes frères et mes sœurs, je vais faire une petite comparaison. Les personnes qui n'ont pas cette maturité-là d'être un don, ils sont toujours insatisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours des autres. Ils attendent que les gens les aiment. Ils attendent que les gens leur fassent attention, l'attention. Ils attendent quelque chose des autres. Mais moi, j'ai pris la décision, Seigneur, de ne plus attendre quelque chose des autres, mais plutôt de faire le pas en avant. Amen. Plutôt d'être une bénédiction pour les autres. Si celui-ci ne veut pas me parler, moi, je vais m'approcher de lui. Si celui-ci ne veut pas attirer attention, moi, je m'approcherai de lui. Si celui-ci ne veut pas m'écrire, moi, je m'approcherai de lui. Et quand je fais ça, je suis calme. Pourquoi? Parce que mes frères et mes sœurs, vous ne pouvez pas recevoir une attention ou bien quelque chose suffisamment, quelque chose de la part de gens et qui va vous satisfaire à 100%. Non, jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas recevoir quelque chose des autres et être satisfait à 100%. Non. Il faut que nous soyons un don et une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Ok, nous allons continuer. La mentalité du royaume, c'est d'avoir des objectifs et de les atteindre. Avoir des objectifs et de les atteindre. Mes frères, nous devons avoir des objectifs dans notre vie, parce que sans objectifs, nous n'arriverons nulle part. Sans des objectifs, nous ne pouvons pas arriver à des résultats. Nous devons avoir des objectifs. Et dans les grands objectifs, il y a des petits objectifs qui nous aident à atteindre des autres objectifs. Amen. C'est-à-dire que nous devons avoir cette mentalité que non, je veux aujourd'hui atteindre ce niveau. Je dois me forcer à toujours perfectionner mon travail, perfectionner mon ministère, perfectionner ma vie, ma famille et tout ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu nous a appelés à aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Gloire à Dieu. Et avoir la mentalité du royaume. Avoir la mentalité du royaume, c'est utiliser l'église locale comme un instrument pour répandre le royaume de Dieu. Amen. Utiliser l'église locale pour répandre le royaume de Dieu. Quand je dis utiliser l'église locale, mes frères et mes sœurs, je veux que nous puissions comprendre, je viens vous expliquer une vérité ici. Que l'église locale, ne doit pas être un objectif. L'église locale ne doit pas être un objectif. Au contraire, l'église locale doit être un instrument ou bien un outil pour toucher la nation. Mon objectif, c'est la nation. Amen. Mais l'église locale, c'est un instrument, c'est juste un instrument que Dieu m'a donné en main pour que je puisse atteindre le royaume de Dieu. Disons, atteindre la nation, pour propager la nation, l'évangile du royaume, pardon. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi? Parce que beaucoup, aujourd'hui, nous baptisons des églises. C'est bien, c'est très bien. Il y a beaucoup d'églises évangéliques. Et quand l'église évangélique, par exemple, devient un objectif, par exemple, voilà, l'église, elle est là. Ok? Si c'est un objectif, je dis, ok, je veux bâtir. On bâtit. Et quand j'atteins cet objectif, je me calme. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs, je vois, qui ont l'église, par exemple, 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Et on s'est calmé. Alors que Dieu, Jésus, dans la grande commission, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit d'aller bâtir des églises. Il a dit d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que l'église, c'est seulement un endroit d'entraînement, de croissance, je me fortifie, je grandis, je reçois la parole de Dieu. Pourquoi? Pour la nation. Amen. Pour la nation. Pourquoi? Parce que si c'est un objectif, je me calme, on va se réunir dans un hangar ou bien quelque part là, et il n'y a personne qui va nous connaître. Et on ne va pas influencer, on ne va pas avoir un impact dans la société. On sera là entre nous, on va se réjouir entre nous, frères et sœurs. On sera bien entre nous, on va se chauffer entre nous les uns les autres, et il n'y a personne qui va nous déranger. Et voilà, on est là, c'est bien, gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, nous allons faire une pause, ok? Je voudrais expliquer, raconter une histoire. Il y a une sœur, par exemple, qui était, elle nous a appelé le dimanche. C'était une sœur de notre école biblique, on était à Kiev. Elle m'a dit, pasteur, maintenant je donne les cours de danse. Je donne les cours de danse. Donc, quand elle était jeune, elle a passé des cours de danse. Elle était dans une école de danse, tout ça. Et maintenant, elle peut donner ce cours de danse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de publicité, hein, de prospectus dans la rue. Et elle a commencé à distribuer aux jeunes gens dans le monde. Elle a fait ça à part l'église. Vous comprenez? Elle a commencé à distribuer ses prospectus et les gens du monde sont commencés à venir, à s'intéresser, à venir apprendre les danses. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend les gens, la danse, les danses, tout ça. Et puis après les danses, elle commence à parler de la parole de Dieu. Et les gens n'ont pas le choix. Donc ils sont là, ils écoutent, elle parle de la parole. Elle dit que non, voilà, Dieu. Elle parle de Dieu, que Dieu nous a créés. Qu'il y a Jésus nous a sauvés. Elle explique, et les gens, ils sont intéressés. Mais mes frères et mes soeurs, et qu'est-ce qu'on a remarqué à Kiev? On a remarqué que les gens, nos frères, nos soeurs de l'église, quand ils utilisent comme ça leur talent, ils sont encore beaucoup, ils ont beaucoup de succès, même que le pasteur dans l'église. Voilà. Donc, la soeur, elle apprend aux gens la danse, il y a les fitness, tout ça, la danse, et puis après, elle parle de la parole de Dieu, elle parle de Dieu, mais ça intéresse les gens reçoivent Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire que chacun, vraiment dans son domaine, là où Dieu vous a placé, là où Dieu vous pousse à travailler, à œuvrer, vous pouvez répandre le royaume de Dieu. Amen. Ok, donc nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer avec notre enseignement.
Nous allons continuer. Et je crois que Dieu a encore un plan pour notre vie. Amen. Mes frères, mes sœurs, je veux que tu dis à la personne qui est à côté de toi qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Il y a encore de l'espoir pour notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Il y a encore de l'espoir. Ok. Donc, on parlait ce matin, on parlait de mentalité du royaume de Dieu. Amen. Les gens qui ont la mentalité du royaume. Amen. Les gens qui ont la mentalité du royaume. Premièrement, on a dit que c'est la responsabilité. Hein? Deuxièmement, on a dit qu'il s'identifie avec la nation, là où Dieu m'a placé. Et puis, on a parlé aussi d'être un don, être une source de bénédiction pour la société. Amen. Et je vais adresser maintenant aux gens qui vont suivre les cours par correspondance. Donc, nous ne vous avons pas oublié. Vous qui allez suivre le cours par correspondance, que Dieu vous bénisse. Donc, vraiment, nous sommes ensemble. Amen. Même si vous allez suivre ce cours un peu plus tard, mais nous sommes ensemble dans un même esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons voir la mentalité de l'évangile du salut. Ok. L'évangile du salut. Mes frères et mes sœurs, l'évangile du salut, c'est une très bonne évangile. Mais c'est seulement une étape de notre vie chrétienne. Amen. Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour nous sauver. Qui est d'accord avec moi? Et Jésus est venu, Jésus est allé se sacrifier pour que nous puissions hériter la vie éternelle. Amen. Mais il y a une question que je me suis toujours posée. Si on n'avait pas un appel dans ce monde, pourquoi Dieu nous laisse vivre encore dans ce monde? Si on n'avait pas un appel ou bien, disons, quelque chose que je dois faire dans ce monde, mais il pouvait me prendre directement dans le ciel. Je me suis converti. J'ai reçu la parole de Dieu. Il m'a lavé, il m'a sanctifié. Mais pourquoi nous laisser encore dans ce monde qui est rempli de péchés, dans ce monde qui est sous la domination du malin? Donc, il pouvait me prendre encore directement au ciel. Amen. Donc, ça veut dire que si Dieu me laisse dans ce monde, c'est parce que j'ai un appel que je dois accomplir. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je dois accomplir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il a pour moi, pour ma vie, pour la vie de ce peuple. Parce qu'il veut m'utiliser pour sa gloire. Il veut que je sois un porteur du royaume de Dieu. Il veut que je continue à faire le travail qu'il a fait. Parce que Jésus dit dans sa parole, c'est dans Jean 12, 14, il a dit que celui qui va croire en moi, il fera des œuvres encore plus que ce que j'avais fait. Amen. Il a dit que celui qui croira en moi, en vérité, celui qui croit en moi fera des œuvres encore beaucoup plus. Donc, ça veut dire que Dieu, Jésus même, dans sa parole, ne nous limite pas. Jésus, dans sa parole, il ne veut pas nous limiter. Il dit que moi, j'ai fait des œuvres, mais vous, vous pouvez faire encore plus que moi. C'est-à-dire qu'il ne veut pas nous limiter. Il ne veut pas que nous soyons, que nous pensons que voilà, je ne peux pas. Non, tu peux. Je peux faire quelque chose. Je peux faire des œuvres pour sa gloire. Amen. Je veux que nous puissions comprendre que quand je dis que faire des œuvres, ce n'est pas pour notre richesse, ce n'est pas pour que nous puissions nous faire connaître pour notre popularité, pour notre gloire. Non, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour que le royaume de Dieu se répande. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler maintenant de la mentalité de l'évangile du salut. Mes frères, mes sœurs, l'évangile du salut, c'est un bon évangile. Mais c'est un évangile, c'est une étape que chaque chrétien doit passer. À part l'évangile du salut, mes frères, il y a l'évangile du royaume. Et nous avons vu que l'évangile du royaume, c'est quand je prends la responsabilité de ma vie et de la vie de ma nation. C'est quand je m'identifie avec la nation là où Dieu m'a placé. C'est quand je suis un don pour la bénédiction de ma nation. Amen. Quelles sont la mentalité de l'évangile du salut? Mes frères et mes sœurs, l'évangile du salut dans l'évangile du salut, les gens ne prennent pas de responsabilité. Amen. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas une croissance spirituelle. Ils n'ont pas une croissance spirituelle qui peuvent leur donner cette capacité-là d'apprendre la responsabilité. On peut voir l'exemple, disons, dans nos églises, quand il y a quelqu'un qui vient recevoir Jésus-Christ, on ne lui donne pas directement des responsabilités. Donc il y a un temps qui passe, et puis après il a des responsabilités. Amen. Mais l'erreur que nous pouvons faire, c'est de laisser la personne longtemps dans cet état-là. Amen. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Si je me fais comprendre. C'est de laisser longtemps la personne dans cet état-là. C'est-à-dire, disons, on ne le pousse pas à pouvoir penser au royaume. On le laisse dans ces niveaux-là. On ne le pousse pas à pouvoir penser à son avenir, à qu'est-ce qu'il peut faire dans le royaume de Dieu. Comment il peut contribuer pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Donc la personne reste dans ce niveau, donc il est irresponsable, il n'a pas de responsabilité. Amen. Donc c'est ça la mentalité, quand la personne pense qu'au salut, l'évangile du salut, il pense qu'à lui-même, il n'est pas responsable de la nation, il n'est pas responsable du pays, il n'est pas responsable du quartier là où Dieu l'a placé. Amen. Ce qui se passe avec le voisin, c'est avec le voisin. Mais moi, j'ai ma famille, moi, j'ai ma vie, moi, j'ai mes parents, moi, j'ai ma vie, donc je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette personne, cette mentalité, la personne ne s'identifie pas avec la nation. Il ne s'identifie pas avec la nation. La personne cherche son propre intérêt. Son intérêt personnel, c'est-à-dire que moi, la prospérité, je dois prospérer, je dois bien vivre, je dois être béni, on doit prier pour moi, les gens doivent m'aider. Amen. Et la mentalité de l'évangile du salut, la plupart des personnes, ces personnes ne payent pas le prix pour chercher la face de Dieu. C'est ce qu'on a vu quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils se sont arrêtés au désert. Oui, ils sont sauvés. Ils ont reçu le salut. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont sortis de la maison de l'esclavage. Mais dans les déserts, ils n'ont pas cherché à avoir de relations personnelles avec Dieu. C'était seulement Moïse qui cherchait la face de Dieu. Et le peuple faisait ce qu'il voulait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une croissance dans leur vie. Amen. Et la plupart des gens qui se sont arrêtés dans cet évangile, l'égocentrisme. Ils pensent qu'à eux-mêmes, ils pensent qu'à satisfaire leurs propres besoins. Je ne dis que pas que c'est mauvais, mais c'est une étape que nous devons passer. C'est une étape que tout le monde a passée. Amen. On a passé un moment où on pensait à soi-même, on pensait à pour que les gens nous aident. Donc on venait chez le pasteur, pasteur aide-moi. Mais ce temps ne doit pas être chronique. On ne doit pas passer toute notre vie dans ce niveau. Amen. On ne doit pas passer toute notre vie dans ce niveau. Nous devons changer, nous devons croître, nous devons grandir spirituellement. Si aujourd'hui on m'a aidé, mais il y aura un moment où moi je serai une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Ok, donc pour le moment je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. J'aimerais bien raconter une histoire d'une sœur pour que vous puissiez comprendre. Hein. Comprendre le but de cet enseignement. Il y avait une sœur à Kiev qui est membre de l'église, et cette sœur, je crois que je ferai tout pour l'inviter ici en France. Donc cette sœur, elle vivait une vie qui n'était pas bonne, qui n'était pas bénie. Donc, bon, dans le monde, quoi. Donc, quand elle est arrivée dans le Seigneur l'a restaurée parce qu'elle était prostituée. Elle vivait dans les casinos, dans les boîtes de nuit, tout ça. Et quand elle est venue, elle n'a même pas terminé l'école. Mais quand elle est venue dans le Seigneur, elle a donné sa vie, elle a accepté le Seigneur, elle a donné toute sa vie dans le Seigneur. Et une fois, elle s'est approchée du pasteur. Elle a dit, pasteur, moi, je sens un fardeau dans mon cœur. Je veux vraiment enseigner le jeûne. J'ai envie d'aller dans les écoles pour enseigner le jeûne. Je veux leur apporter la parole de Dieu. Comme notre pasteur, c'est une personne qui donne la possibilité à tout le monde, à chaque membre. Il a dit, vas-y, je t'aide. Moi, je suis là pour t'aider, que tu puisses prospérer dans ton ministère. Il a dit, je ferai tout pour que tu prospères, pour que ce ministère avance. Et qu'est-ce que la sœur a fait? La sœur a commencé à fréquenter, elle a commencé avec une école. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait à l'école, elle rencontrait le directeur de l'école, et dit, elle parlait avec le directeur de l'école, est-ce que vous pouvez me donner l'occasion de pouvoir parler avec le jeune? Parce que je vois, elle est venue avec une statistique de jeunes qui prennent la drogue, des jeunes qui tombent dans la prostitution, tout ça. Il dit, est-ce que je peux parler avec les jeunes pour pouvoir les aider, pour qu'ils ne puissent pas, se droguer, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la prostitution, tout ça. Mais pour le directeur, c'était vraiment une solution. Pour le directeur, il dit, mais bien sûr, je t'ouvre les portes de mon école. Tu peux venir enseigner les jeunes. Et la sœur a commencé à fréquenter, elle a commencé avec une école, après deux écoles, après trois écoles. Et aujourd'hui, où je vous parle, la sœur a une équipe. Et maintenant, elle travaille dans toute l'Ukraine. Et aujourd'hui, elle enseigne plus d'un million des écoliers. Dans toute l'Ukraine. Elle œuvre pas dans l'église. Mais elle a trouvé une terre promise. C'est l'école. C'est influencer le jeune. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un programme. Elle a créé un programme. Et dans ce programme, c'est un programme qui est basé sur les principes du royaume des dieux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qui est basé sur les principes du royaume, tout ce qui est basé sur les principes bibliques, ça marche. Qui est d'accord avec moi? Ça marche. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Elle a fait un programme. Et ce programme, elle a présenté ce programme au ministre de l'éducation. Et quand les ministres de l'éducation, quand ils ont vu ce programme, ils ont dit non. En tout cas, on est prêt à t'aider. On est même prêt à te donner un salaire. Pour que tu puisses enseigner nos jeunes. Et aujourd'hui, avec son équipe, elle enseigne les jeunes les principes bibliques. Comment se préserver de cette mauvaise vie. Comment ne pas prendre la drogue. Quelles sont les conséquences de la drogue. Et puis en enseignant ça, il parle aussi du royaume de Dieu. Il parle aussi de Dieu. Et beaucoup de gens à travers ce ministère sont venus dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est ce que nous, chrétiens comme chrétiens, nous devons faire. Amen. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Mais frères et sœurs, on a toujours enseigné les gens dans l'église. À rester dans l'église, la louange, l'intercession, voilà ceci, voilà cela, cela. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire le travail seulement au sein de l'église. Amen. C'est pour ça au début je vous ai dit que l'église ne doit pas être notre objectif. Mon objectif c'est la nation. Mais je viens à l'église pour grandir spirituellement, pour recevoir quelque chose de pour maintenir ma vie chrétienne, ma sanctification, pour vivre bien devant le Seigneur, pour hériter le royaume des dieux. Amen. Pour vivre éternellement. Mais entre-temps, parallèlement, je dois accomplir mon appel. Cette sœur a senti que non, je dois conquérir le monde, par exemple, de jeunes. Je dois toucher les jeunes.
Elle a compris que l'église est seulement un instrument. Elle vient seulement à l'église pour être enseignée. Le pasteur l'enseigne. Le pasteur lui donne toutes les possibilités, toutes les capacités, les révélations. Et elle prend ça pour pouvoir enseigner aux jeunes. Amen. Et aujourd'hui, elle a même du succès, elle a des résultats plus que beaucoup de gens qui sont dans l'église. Je me rappelle une fois quand j'avais l'église en Ukraine, là où j'étais pasteur, je priais, il n'y avait pas des gens qui venaient donner leur vie à Jésus-Christ. Je dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Il n'y a pas de gens qui viennent. Il n'y a pas de gens qui viennent se convertir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas? Là-bas, les gens viennent, mais chez moi, les gens ne viennent pas. Dieu m'a dit, Robert, je veux que tu ouvres tes yeux. Comment ouvrir mes yeux? Que tout le monde que tu vois dehors, si tu vas les considérer comme tes gens, voilà, ce sont tes gens. Si tu vas considérer que ces gens ne sont pas tes gens, ce sont des brebis, ils ne sont pas de brebis, en tout cas, je ne peux pas te confier ce peuple. J'ai compris que Dieu m'a dit qu'il ne faut plus attendre les gens les dimanches. Parce que qu'est-ce que moi je faisais? Moi, la semaine, on ne faisait rien et les dimanches, j'étais là avec mon pupitre et j'attendais que les gens viennent. J'avais mon pupitre et j'avais mon micro, j'attendais que les gens viennent. Dieu m'a dit que je vais te montrer une autre stratégie. Il ne faut pas que tu attendes que les gens viennent. Toi, il faut chercher ces gens-là et aller dans leur territoire et travailler avec eux dans leur territoire. Pourquoi? Parce que si je t'envoie les gens aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vas te calmer. L'église deviendra un objectif pour toi et tu vas t'arrêter. Alors que j'ai une grande nation dans cette ville qui doivent me connaître. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette ville qui doivent me connaître. Et pour qu'ils me connaissent, il faut que tu sors dans tes quatre murs. Il faut que tu vas dans leur territoire, là où ils sont. Il faut que tu passes dans la place publique. Il faut que tu les rencontres là. Qui est d'accord avec moi que c'est Dieu qui donne les brebis? Amen. C'est Dieu qui amène les brebis à l'église. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Pour les emmener, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a compris sa pensée? Est-ce qu'on a compris la pensée de Dieu? Parce que la pensée de Dieu est d'emmener ces gens pour que ces gens viennent le recevoir. Amen. Mais mes frères, mes soeurs, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Amen. Il faut aller les chercher, c'est-à-dire que l'église, on peut aujourd'hui le créer partout. Et quand j'étais pasteur, j'ai eu des problèmes avec quelques leaders dans l'église. Pourquoi j'ai eu des problèmes? J'ai eu des problèmes parce que tout le monde voulait le micro et le pupitre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que j'avais des assistants et aussi voulaient prêcher la parole. Il dit, mais pasteur, toi tu prêches toujours du 1er janvier au 31 décembre, mais tu ne laisses pas le micro et le pupitre. Et on s'est chamaillé pour le micro. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'ai pas pensé comme pasteur qu'il fallait que ces gens-là héritent une terre. Hériter une terre là où ils pouvaient cultiver et garder. Ces gens, ils avaient aussi envie de servir. Ils avaient aussi envie de libérer leur potentialité. Ils avaient aussi envie de s'exprimer. Mais qui comprend qu'on ne peut pas, on ne peut pas tous prêcher dans un même pupitre. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre, frères et sœurs. Donc, comme je disais au début, que dans chaque pasteur, nous devons voir plus loin. Comment est-ce que je peux aider mes gens, les membres de mon église, pour qu'ils puissent se retrouver dans la société? Par exemple, prenons cette sœur-là. La sœur vient seulement le dimanche, la sœur qui répand le royaume de Dieu dans les écoles, mais pour elle, elle a son ministère. Hein? Elle a des gens, elle a un travail qui est un grand travail qui se fait. Elle vient seulement le dimanche, elle écoute la parole de Dieu et ça va.
Donc, c'est-à-dire que l'objectif du pasteur, c'est d'aider chaque personne, que chacun puisse comprendre son appel. Et là où il sera, là où il est, il va apporter de fruits. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est pas dur ce que je suis en train de dire? Non, ça va. Hein? Ok. Donc, c'est ça l'objectif de chaque responsable spirituel. Pourquoi? Parce que quand on n'aide pas les gens à pouvoir entrer dans leur destinée, il y a une insatisfaction qui est dans leur cœur. Parce qu'ils se sentent capables, ils se sentent remplis de talents et ils ne peuvent pas le libérer pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, Proverbe 13, 22. Nous allons voir le Proverbe 13, 22. Je suis très content parce que dans cette salle, il y a une de mes cousines qui est là. Je suis vraiment très content. Elle est venue nous rendre visite. Et je crois que elle sera l'une des étudiantes aussi de l'école de stratégie. Amen. Ok, donc c'est Proverbe 22, 13, 13. Le Proverbe 13, le verset 22. La Bible dit que l'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Amen. L'homme de bien, il transmet à des petits-fils un héritage. Pas seulement à des petits-fils, mais à des fils un héritage. Mais les ressources du pécheur sont réservées pour les justes. Mais je veux attirer votre attention dans la première partie, c'est l'homme de bien transmet à des petits-fils un héritage. Mes frères et mes soeurs, nous devons transmettre à nos petits-fils, à nos fils, un héritage. C'est-à-dire que si je suis un don pour la nation, pour l'Église, c'est-à-dire que chaque membre de l'Église doit recevoir un héritage. Amen. C'est-à-dire que je dois travailler d'une manière que chaque personne dans l'Église entre dans sa terre promise. Je vais vous expliquer comment je travaille avec les étudiants de l'école biblique à Kiev. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient, qui ne connaissaient pas leur appel, qui ne connaissaient pas leur don, qui ne connaissaient pas leur talent. Et j'essayais de parler avec eux, j'essayais de dire que non, commencez à rêver. Quels sont les désirs que vous avez quand vous étiez encore enfant? Quels sont les désirs que vous avez quand... Quels sont vos rêves? Essayez de rêver, essayez de penser, essayez de travailler avec le Seigneur. Et vous allez remarquer que le rêve que vous avez, c'est votre appel. Amen. C'est-à-dire que dans cette parole, je veux dire que chaque responsable spirituel doit apporter et donner un héritage à son fils, à ses filles. Et je remercie le Seigneur pour notre père spirituel. Pour ceux qui ont étudié pendant ces années, vous avez vu combien de pasteurs sont venus ici, non? Combien de pasteurs sont... C'est même pas la moitié, c'est encore peu. Pourquoi? Parce que notre responsable spirituel a travaillé pour que chaque enfant ait son héritage. Bien sûr, il y a encore d'autres fils, il y a encore d'autres filles, mais il travaille pour que chacun puisse trouver son héritage. Amen. Moi, quand je travaille avec une personne, en tout cas, mon objectif numéro un, que cette personne retrouve son héritage. Pourquoi? Parce que la personne peut venir aujourd'hui que non, parce que j'ai besoin d'aide. C'est bien. Mais il y a un moment où, en tout cas, cette personne doit recevoir son héritage. Son héritage, c'est sa terre, là où, quand Dieu a dit à Adam, vas-y cette terre, cultive-la. Amen. C'est un moment de responsabilité. C'est un moment quand la personne doit se réaliser, l'auto-réalisation. Il doit travailler avec son cœur, travailler avec ses mains, travailler pour pouvoir voir le fruit de son travail. Comme on a dit ici, qu'un père doit donner, transmettre un héritage à leurs filles, à leurs fils. Amen. Mes frères, mais ça c'est biblique. Nous allons voir Josué 1. Josué 1. Le livre de Josué. Le premier chapitre. Le premier chapitre et le premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, qui était le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, assistant de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici toi et tout ce peuple en direction du pays que je donne aux Israélites. » Amen. Dieu dit à Josué, le temps est arrivé, c'est fini. Mon serviteur est mort. Quand je dis mon serviteur est mort, c'est pas forcément, bon disons spirituellement, c'est pas forcément que le pasteur ou bien le responsable spirituel est mort, non. Son temps est passé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de génération. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. Amen. Et c'est le Dieu de Jacob. Ce n'est pas dit que si Dieu appelle Abraham, c'est que il va que Isaac n'a pas un appel, que Jacob n'a pas un appel. Non. Si Dieu appelle Abraham, c'est que en Abraham, il voit en, à travers Abraham, il y a Isaac qui doit grandir. À travers Isaac, il y a Jacob qui doit venir. De génération en génération. C'est-à-dire que Abraham, lui, il a donné son héritage à qui? À Isaac. À Isaac a transmis son héritage à qui? À Jacob. C'est un Dieu des générations. Amen. Pourquoi? Parce que ses pères ont compris que ce n'est pas seulement moi, pasteur, qui dois continuer. Non, mais j'ai des fils qui doivent aussi s'élever. Alléluia. Il y a des fils qui doivent faire le travail que je fais. Peut-être qu'ils vont faire encore beaucoup plus mieux que ce que je fais. Ils vont faire encore mieux que ce que je fais. C'est pour ça qu'on voit ici, Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, que non, mon serviteur Moïse est mort. Le temps est passé. Maintenant, c'est une nouvelle saison pour une nouvelle génération. Amen. Et il a dit à Josué, Josué, toi qui étais assistant de Moïse, tu étais assistant. J'ai vu ta fidélité. J'ai vu que tu étais à côté de lui. Aujourd'hui, il te laisse un héritage. Vas-y, prends cette terre. Amène ce peuple. Alléluia. J'ai rencontré une église ici. Il y a le membre qui vient qui dit que non, pasteur, notre église, notre pasteur ne peut plus. Moi, je ne savais pas pourquoi il ne peut plus. Donc, le pasteur ne peut plus œuvrer, ne peut plus servir, tout ça. Je dis, mais pourquoi il ne peut plus, hein? Il m'a dit que c'est l'âge. Je dis, comment, quel âge là? Il est dans les 80 ans. Il sait que le pasteur a 80 ans, mais il n'y a pas eu une relève. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu une relève, donc il n'y a pas eu des successeurs qui pouvaient continuer le travail. Il n'y a pas eu des enfants qui lui a transmis cet héritage. C'est pas que les gens sont incapables. C'est pas que les gens n'ont pas de talent. Non. Les gens ont suffisamment de talent, mais ils n'ont pas compris l'évangile du royaume. C'est l'évangile de génération en génération. Amen. Mes frères, mes soeurs, nous devons travailler à la relève. Aujourd'hui même, je dois travailler à la relève. Je dois travailler, je dois voir. Mais qui viendra après moi? Qui viendra demain? Je dois travailler dans ça. Amen. Pourquoi? Parce que quand on ne travaille pas dans ça, le travail s'arrête. Mais le travail ne doit pas s'arrêter. Le travail du royaume doit être continuel. Parce que quand Moïse était mort, c'était Josué qui a commencé à continuer le travail. Amen. Josué a continué le travail. Alléluia. Donc nous avons une très grande responsabilité, frères et sœurs. Amen. Nous avons une très très grande responsabilité. Nous allons voir quel est le leader du royaume de Dieu. Nous avons la différence entre les leaders du royaume et les leaders du monde. Le leader du royaume et les leaders du monde, c'est un nouveau point. Le leader du royaume et les leaders du monde. Le leader du royaume, ce sont les leaders, il élève les gens en les encourageant et en les formant à la stature que Dieu désire pour eux. Bonne route. Les leaders du royaume, je répète, il élève les gens en les encourageant et le formant à la stature que Dieu désire pour eux. C'est-à-dire qu'il travaille pour que les gens s'élèvent. Il travaille pour que les gens continuent le travail. Il travaille pour élever les leaders, élever d'autres personnes. Leur donner la possibilité, leur donner tout. Leur montrer que vous pouvez aussi œuvrer dans l'œuvre du royaume. Amen. Le leader du monde, il dirige ou en contrôlant ceux qui travaillent pour lui. C'est-à-dire qu'il dirige, c'est tout dans le contrôle, pour que les gens travaillent seulement pour son intérêt. C'est-à-dire que c'est un président fondateur. Aïe, aïe, aïe. Et il fait son royaume. Il exerce son autorité par la peur, en établissant des lois, des règles, des interdits, des menaces. Il n'influence pas ses ouvriers de l'intérieur. Il ne les encourage pas. Il ne les inspire pas. Au contraire, il les mène avec une barre de fer. Ça, c'est le leader du monde. Je répète, le leader du monde, il dirige en contrôlant ceux qui travaillent pour lui. Il exerce son autorité par la peur, en établissant des lois, des règles, des interdits, des menaces. Des fois, ils utilisent la parole de Dieu pour menacer les gens qui disent, voilà, vous êtes dans la malédiction, et les gens sont dans la crainte. Les gens ont peur. Que si vous allez quitter l'église, vous serez toujours dans la malédiction. Pourquoi? Parce que les gens veulent œuvrer, les gens veulent s'épanouir. Mais les gens sont comme en captivité, on les a enfermés, on les a étouffés. Que tu dois aller nulle part. Mais je dois aller nulle part, mais donne-moi l'occasion de œuvrer pour le Seigneur, pour le royaume. Et on est comme, et il devient comme de pharisiens. Qu'est-ce qu'ont fait les pharisiens? Les pharisiens lui-même, il ne va pas au royaume de Dieu, mais il ne donne pas l'accès aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'influence pas ses ouvriers de l'intérieur, il ne les encourage pas et ne les inspire pas. Au contraire, il le mène avec une barre de fer. Deuxièmement, le leader du royaume. Le leader du royaume utilise son autorité pour que les autres réussissent. C'est-à-dire, il utilise son autorité pour que les autres réussissent. Il sait que Dieu m'a donné ces gens, ce peuple. Dieu m'a confié ce peuple. Non, ce n'est pas pour ma popularité, mais c'est pour que ces gens réussissent. Amen. Pour que ces gens réussissent. Pourquoi? Parce que mes frères et mes sœurs, personne ne peut réussir dans ce monde s'il n'y a pas quelqu'un qui va le conduire, le mener, l'aider à pouvoir réussir. Il se considère inférieur à ceux qu'il dirige et prête ses épaules pour qu'il puisse aller plus haut. Amen. Pour que ceux qui viennent, ceux qu'il sert, puissent aller plus haut. Plus haut. Et ceux qui le suivent savent qu'ils peuvent lui faire entièrement confiance. Amen. Mes frères et sœurs, nous-mêmes, on ne peut pas s'emparer du royaume de Dieu. On ne peut pas. Nous avons besoin d'une aide. Nous avons besoin de l'aide des gens. Nous avons besoin d'une relève pour que le travail puisse s'épanouir, pour que le travail puisse s'élargir. Amen. Nous avons besoin des assistants. Nous avons besoin de gens qui vont travailler, qui vont œuvrer. Et tout le monde n'est pas appelé à œuvrer dans une même direction. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, qui critiquent l'ambassade de Dieu. Voilà, vous parlez de business, vous parlez de business, vous parlez de... aïe, aïe, aïe. Les gens nous critiquent. Vous parlez de la politique, vous parlez du business, tout ça. Frères et sœurs, je veux dire, si par exemple vous êtes pasteur, il y a un membre qui vient accepter Jésus-Christ. Amen. Et il sent dans son cœur que, pasteur, je suis appelé à faire de la politique. Si par exemple, je lui dis, non, 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 toi, tu vas dans la louange. Ok? Tu vas dans la louange. Tu resteras ici. Et il chante bien. Mais dans son cœur, il est appelé à faire la politique. Dites-moi. Et il est à côté de moi et c'est rentable pour moi. Amen? C'est rentable pour l'œuvre. C'est bien, il chante bien, alléluia. Mais est-ce que c'est une bénédiction pour lui? C'est pas une bénédiction pour lui. Mais pourquoi je dois le garder là si ce n'est pas une bénédiction pour lui? Amen. Donc, je dois l'aider dans son environnement, là où il veut servir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne les désirs selon sa grâce. Il nous donne le désir de faire. C'est Dieu qui suscite en nous les désirs. Donc s'il sent en lui qu'il veut faire la politique, mais je dois l'aider à faire la politique, mais selon le principe biblique. Amen. Je dois le pousser dans ce domaine-là. Je dis, tu veux faire, mais vas-y. Je dois le parler de la parole de Dieu. Tu peux aller le faire, mais va établir là le royaume de Dieu. Bien sûr, il peut chanter pendant un certain temps, mais je veux le préparer pour qu'il règne là-bas, pour qu'il aille et emmener le règne du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église ne fait pas la politique. On ne fait pas la politique, mais on sait que les gens qui sont dans la politique sont des citoyens comme nous. Donc, si je m'identifie avec ce peuple, je dois prier pour ces gens. Ces gens ont besoin du Seigneur. Amen. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un pasteur en Ukraine, il s'appelle Vladimir. Vladimir, il était pasteur dans une ville et... Nous, on a compris que si tu es passé dans une ville, ça c'est notre passé qui nous a... Tu dois aller chez le maire de la ville. Il faut aller faire connaissance, rencontrer le maire de la ville. Dire, voilà, maire, nous sommes là. Nous sommes là. Pour que le maire sache que nous sommes là. Amen. Même si l'église a 20 personnes, même 10 personnes, il faut aller chez le maire. Ok? Et le pasteur est allé chez le maire, il a dit, maire, nous sommes là. Nous sommes une église évangélique. Et ils ont commencé à inviter le maire quand ils avaient des manifestations dans l'église, à inviter le maire. Dans un premier temps, le maire ne venait pas. Mais après, le maire a commencé à s'intéresser. Pourquoi? Parce que l'église était intéressée à faire des actions sociales, à aider les jeunes, à aider les pauvres, tout ça. Et c'était une bénédiction pour la ville. Et le maire était très intéressé. Quand il y avait de fêtes, par exemple, il faisait le travaux dans des places, dans le parc. Il faisait ça bénévolement. C'était toute l'église. Le pasteur qui disait, allez-y, allons-y. Aujourd'hui, c'est férié, nous allons travailler, nous allons mettre la propriété, par exemple, dans un parc. On n'a pas besoin de l'argent. On le fait gratuitement. Mais tu sais, c'est étonnement, ça étonne les gens. Comment vous faites ça gratuitement? Il a dit, nous faisons parce que nous sommes... enfants de Dieu, nous identifions avec ce pays. Ils sont allés dans le parc, ils partaient dans le parc, nettoyaient le parc, tout ça. Et le maire de la ville était étonné. Mais comment, qui sont ces gens-là? C'est pour attirer l'attention. Mais frère, mais ça, ce que je suis en train de vous dire là, c'est un secret. Hein? Pour attirer l'attention, il faut faire les choses que les gens n'aiment pas faire. Les gens n'aiment pas faire ça. Bon, bien sûr, il y a certains qui peuvent le faire, mais ce n'est pas tout le monde qui le font. Qu'est-ce font les gens ici en France? C'est la grève. Ils ne sont pas contents, on n'est pas contents. On est fâchés. On est en colère. Nous ne sommes pas en colère. Amen. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Le pasteur a commencé à faire des manifestations, des œuvres sociales, tout ça. Et pour le maire, c'était vraiment choquant. Il était touché par ça. Et il a commencé. Ils sont devenus amis, les deux. Et puis, il y avait un moment où le pasteur a changé. Le maire a changé de poste. Il est devenu député. Et puis, après quelques temps, il est devenu pasteur. Il est devenu premier ministre. Pardon. Il est devenu premier ministre. Le maire de la ville est devenu premier ministre. Et quand il est devenu premier ministre, il s'est souvenu une fois du pasteur là. Il s'est souvenu. Il a dit, je connais un bon gars là, un bon pasteur. Une fois il l'a appelé. Il a dit, pasteur, tu te rappelles de moi? Il a dit, oui, je te me rappelle. Il a dit, vraiment, j'ai un poste. Je sais que tu es une personne qui tu es sincère, tu es honnête, tu as la crainte de Dieu. Je veux vraiment que tu puisses travailler dans un poste là. Ah, le pasteur a dit, mais j'ai mon assemblée, comment est-ce que je veux le laisser? Le pasteur a reçu la révélation de Dieu. Et Dieu l'a dit, tu as œuvré, laisse cette église, qu'une autre puisse la conduire. Toi, je t'invite dans la politique. Tu dois faire la politique. Et ce pasteur est allé, il a commencé à faire la politique. Et il est allé même jusqu'au niveau, il est devenu député. Il est devenu député. Quand c'est dans nos parlements, ils élaborent des lois, ils votent des lois, tout ça. Et les lois qui étaient votées, un jour les lois étaient votées, c'était en ce sens des lois qui transgressent la parole de Dieu. C'était des lois qui étaient contre les principes du royaume de Dieu. Et lui, il était dans la salle du parlement. Il a compris que non, Dieu l'a parlé, que non, ton temps est arrivé de défendre mes valeurs et mes principes. Parce que je ne t'ai pas emmené à cette royauté, je ne t'ai pas emmené à cet endroit pour que tu puisses te taire. Tu dois parler de moi, tu dois parler de mes valeurs. Tu dois défendre les principes de Dieu. Et quand les gens ont commencé à voter des lois, lui, il a compris que non, je dois parler. Et il a compris que Dieu, c'était le moment où Dieu l'a parlé. Dieu l'a dit que non, c'est le moment où tu dois aujourd'hui défendre. Je t'ai emmené à cet endroit pour que tu puisses défendre les principes. Mes principes. Et il est allé, il a parlé. Il a défendu le principe du royaume de Dieu. Il n'a pas parlé, il n'a pas prêché, il n'a pas parlé de Dieu. Mais il a parlé de la parole. Il a parlé des principes de Dieu. Et les gens ont applaudi, les gens ont compris que c'était bien pour la société, que c'était bien pour les jeunes, que c'était bien pour le peuple. Mes frères, mes sœurs, les gens de ce monde, ils ont besoin de tout ça. Mais il n'y a personne qui est prêt aujourd'hui à leur parler de ça. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens ont besoin d'entendre ces paroles. Mais peut-être que c'est, il faut que nous puissions arriver à ce niveau-là pour leur parler. Si par contre il y a des gens dans l'église qui sont appelés à faire de la politique, pourquoi je dois les garder? Je dois au contraire l'aider à le pousser là-bas pour qu'il puisse arriver à ce niveau et influencer dans cette sphère-là. Amen. Ok. Non, je disais que le leader du royaume, il utilise son autorité pour que les autres réussissent. C'est-à-dire que je ne suis pas là seulement pour dominer sur les gens. Non, je ne suis pas là pour dominer. Je ne domine pas. Mais j'aide pour que les gens réussissent dans le domaine là où Dieu les a appelés. Alléluia. Amen. Ok, le leader du monde. Le leader du monde considère ses ouvriers comme les outils de son propre succès. Ça C'est-à-dire que les ouvriers sont un outil pour mon succès, pour mon propre succès. Il faut que les gens me connaissent. C'est pour son succès, pour son prestige. Et il cherche à tout prix à détruire le potentiel qu'il y a dans ces gens-là. Il a peur que ces gens s'élèvent. Parce que ces gens, pour lui, ces gens sont comme des concurrents qui veulent voler sa place, qui veulent faire un coup d'État. Ça, c'est un leader du monde. Ça, c'est le leader du monde. Il donne aucune chance aux gens de s'améliorer. Il donne aucune chance aux gens de s'améliorer. Je ne sais pas ce que je dis. Est-ce que vous avez vécu ça dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu ça dans le ministère? Est-ce que vous avez vécu ça quelque part? Mais c'est qu'on on vit ça aujourd'hui. Parce que quand on n'a pas de fruits, quand on n'a pas de gens qui s'élèvent, ça montre que le leader cherche son intérêt personnel. Il ne cherche pas que les gens s'améliorent. Le leader du royaume. Le leader du royaume. Il fait confiance aux gens et sait comment déléguer l'autorité. Et sait comment déléguer l'autorité nécessaire pour que toutes sortes de tâches soient accomplies. Amen. Il sait comment déléguer le pouvoir pour que toute tâche soit accomplie. Ça, c'est le leader du royaume de Dieu. Le leader du royaume. Donc il délègue son autorité et son pouvoir. Nous allons voir le leader du monde. Donc le leader du monde, lui, il ne donne pas la possibilité aux gens de progresser. Il ne donne pas la possibilité aux gens de progresser. Donc il y a constamment des interdits, il y a constamment des lois, il y a constamment des choses pour limiter ces gens. Il ne donne pas accès aux gens à entrer dans une nouvelle dimension. Beaucoup. Donc Jésus s'est fait petit, Jésus s'est fait inférieur pour nous donner, pour nous servir, pour nous élever, pour nous bénir. Amen. Mais enfin, nous devons déjà bien avant avoir cette attitude-là. Que toute personne que Dieu me confie aujourd'hui, je dois être une source de bénédiction pour eux. Toute personne que je rencontre dans mon ministère, en tout cas, je dois être une source de bénédiction. Je dois travailler pour que ces gens héritent une terre promise. Amen. Mais enfin, nous sommes de leaders futurs et nous devons changer cette mentalité-là. Nous devons amener cette nouvelle mentalité du royaume de Dieu. Cette nouvelle façon de faire le culte, l'église. Cette nouvelle façon d'élever des leaders. Amen. De travailler pour le bien-être des autres. Amen. C'est ce que Jésus avait fait. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le modèle du leader du royaume. Et dans Exode 18, 25, on voit que Moïse avait élevé une équipe. Il a élevé une équipe. Il avait élevé une équipe pour que cette équipe fasse aussi le travail que lui faisait, que lui pouvait faire. Parce que celle-là ne pouvait pas. Amen. Et mes frères, je dis de cette manière-là, le royaume de Dieu est en train de s'élargir. De cette manière, le fait d'élever les autres, c'est le royaume de Dieu est en train de s'élargir. Beaucoup de gens pensent que si je fais ça, je perds. Mais frère, si vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Amen. Dieu va nous enseigner, Dieu va nous entraîner de perdre. Avant de recevoir quelque chose, nous devons être prêts à le perdre. C'est-à-dire que je dois voir que toute personne qui est là, tôt ou tard, ils partiront. Tôt ou tard, ils partiront. C'est-à-dire que je dois déjà préparer mon cœur. Que non, aujourd'hui ils sont là, mais demain peut-être qu'ils iront, ils partiront. C'est comme un papa qui a un enfant, un fils, qui a une fille. Nous devons comprendre que tôt ou tard, ils vont se marier. Ils vont vivre à part. Amen. Ils vont se marier, ils vont vivre à part, ils ne vont plus vivre avec nous. Donc ce n'est pas dit que ces enfants ne m'appartiennent pas, ce sont les enfants du Seigneur. Amen. Ceci pareil avec les brebis, ça ne m'appartient pas, ce sont les brebis du Seigneur. Aujourd'hui ils sont pour moi, aujourd'hui ils sont là pour un certain temps, mais demain ils vont aller, ils seront responsables. Amen. Et tout ce qu'on libère aujourd'hui, mais frère, je vais dire une chose, on les a pas perdus, on les a libérés. Et les gens aiment qu'on les libère. Quand vous les libérez, ils restent attachés à vous. Amen. Quand on les libère, ils restent attachés. Mais quand on s'attache à eux, ils deviennent des rebelles et ils fuient. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ce qu'on a vécu dans nos églises ou bien dans nos ministères. Ok, je crois que nous allons faire une pause. Hein? Amen. Parce qu'il y a la fatigue, nous allons faire une pause. Ok. Et nous allons commencer. Il s'est déplacé aujourd'hui pour assister à ce premier jour d'enseignement à l'école de stratégie. Amen. Et gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Amen. Et nous sommes là pour le Seigneur parce que nous aimons le Seigneur. Amen. J'aimerais bien lire un verset biblique ici. Avant que nous puissions continuer, je vais lire un verset biblique, c'est dans Philippiens. Est-ce qu'on peut voir Philippiens? C'est dans Philippiens. C'est dans Philippiens 3, le verset de verset 7 à 8. Amen. Philippiens 3, le verset 7 à 8. Ici, la Bible dit, mais ce qui est pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Amen. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. Afin de gagner Christ. Mes frères, mes sœurs, on a besoin. J'aimerais vraiment aujourd'hui exprimer mon amour envers Christ. Amen. J'aimerais aujourd'hui exprimer mon amour devant Christ. On parle du royaume, on parle de l'expansion du royaume, mais nous faisons ça pourquoi? Parce que nous aimons Christ. Amen. On fait ça parce qu'on aime le Seigneur. Quand on aime, on est prêt à abandonner quelque chose, on est prêt à perdre quelque chose pour gagner le Seigneur. Amen. On est prêt à sacrifier son temps. On est prêt à sacrifier, tout ce qu'on a pour le Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, d'aimer Jésus-Christ. Amen. D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos forces. D'aimer le Seigneur. En tout cas, je vous raconte une petite histoire. C'était un frère là, il s'appelait Sergei, c'est en Ukraine. Et ce frère là, lui, vous connaissez les mères ont, ils savent comment, ils savent qu'est-ce qui se passe dans la vie de leurs enfants. Amen. Et la maman a remarqué que son fils était amoureux. La maman a commencé à voir son fils qui revenait à la maison, tout joyeux. La maman a dit, Sergei, je vois vraiment que toi, tu es amoureux. Comment il s'appelle, hein? Le fils dit, non, maman, ça va, tout va bien. Ah, la maman ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe avec Sergei? Sergei revient, avant il était tout, disons, soucieux. Aujourd'hui, maintenant, il revient à la maison vraiment tout joyeux, il est en joie, il est enthousiasmé. La maman a compris que non. Dans la vie de Sergei, vraiment, il y a quelqu'un qui est apparu. Il y a une fille qui est apparue. Et il demandait constamment à Sergei, mais dis-moi comment elle s'appelle. Je veux faire connaissance avec elle. Et la maman ne connaissait, ne savait pas. Et une fois, Sergei a dévoilé. Elle dit, maman, oui, je suis tombé amoureux. Ah, comment est-ce que tu es tombé amoureux? Oh, maman, oui, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de Jésus. Je suis tombé amoureux de Jésus. Et c'est Sergei, il avait rencontré des frères qui l'ont parlé de Jésus-Christ. Et il avait accepté Jésus-Christ. Et quand il a accepté Jésus dans son cœur, sa vie avait changé. Amen. Il était vraiment rempli d'enthousiasme et de vie. Et même sa maman a remarqué, même les gens qui étaient autour ont remarqué que non, Sergei, ce n'est pas le Sergei qu'on connaissait auparavant. Il est rempli de vie, il est rempli de joie, il est rempli d'enthousiasme parce qu'il est tombé amoureux de Jésus. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais bien qu'on puisse tomber amoureux de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont perdu le premier amour. En tout cas, j'aimerais bien que nous puissions vraiment restaurer ce premier amour avec Jésus-Christ. Le relation personnelle avec le Seigneur. D'aimer le Seigneur qui chaque jour de m'approcher de Dieu, chaque jour chercher sa face. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, on est perdu. Sans lui, on ne peut rien faire. Je voudrais bien demeurer toujours dans sa présence. Ici, la parole de Dieu dit, « Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. » Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mes frères et mes sœurs, pour servir le Seigneur, nous serons obligés d'abandonner quelque chose. Nous serons obligés de laisser quelque chose, de perdre quelque chose. Et il y aura un moment de choix, qu'on doit faire un bon choix. C'est-à-dire ou bien de servir, de continuer, ou bien de rester attaché aux choses de ce monde. Amen. Et le bon choix, c'est de suivre le Seigneur. Amen. Le bon choix, c'est de suivre le Seigneur. Et même si aujourd'hui nous perdons quelque chose, nous laissons quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'en recevant le Seigneur, en perdant quelque chose pour gagner Christ, c'est-à-dire je gagne le royaume, je gagne tout. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice, et tout vous sera donné. Amen. Donc, que l'amour du Seigneur surpasse tout ce que je fais aujourd'hui. Je fais ça pourquoi? Parce que j'aime le Seigneur. Je fais ça parce que, c'est pas parce que je cherche quelque chose, mais je cherche son royaume et sa justice. Quand j'aime le Seigneur, en tout cas, je ne peux pas avoir de conflits avec les autres, avec d'autres frères et sœurs. Je ne peux pas me permettre vivre dans les conflits. Je préfère aujourd'hui me soumettre, m'humilier pour avoir la paix avec tout le monde, comme dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes une nouvelle génération, pas une nouvelle génération qui se dit seulement serviteur de Dieu, non. Une nouvelle génération qui aime Jésus. Et quand j'aime Jésus, je suis prêt à tout faire pour le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, je veux dire que quand on lit cet enseignement, peut-être que vous avez remarqué des choses dans votre vie, dans vos ministères, dans vos églises. Ne gardez pas rancune contre quelqu'un, ou bien contre un ministère, ou bien contre un pasteur. Non, non, non. Nous sommes appelés à aimer. Nous sommes appelés à aimer. Aimer. C'est-à-dire, même si aujourd'hui je rencontre de bâtons dans le rue, même si j'ai rencontré des gens, des responsables qui ne m'ont pas aidé à trouver ma terre, en tout cas, je continue à les aimer. Amen. Je ne veux pas aujourd'hui servir et puis avoir de conflit avec un serviteur de Dieu ou bien avec quelqu'un d'autre. Non, non, je ne le permets pas. S'il y a un conflit, moi je prends la responsabilité d'aller me réconcilier avec lui. Si lui ne le veut pas, moi je le fais. Amen. Faites ça. Ne permettez pas, même si la Bible dit, même si tu sais qu'un frère a quelque chose contre toi, laisse ton sacrifice, va réconcilie-toi avec ton frère. Et puis après, prends ton sacrifice, sois donné. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les gens se permettent de servir Dieu et même de prêcher la parole de Dieu, tout en sachant qu'il a des conflits avec quelqu'un d'autre, avec un autre serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je dois avoir la paix avec tout le monde. Amen. Je dois avoir la paix et l'amour avec tout le monde. Je ne me permets pas vraiment qu'il y ait de l'amertume ou bien de rancune en moi. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que c'est ça qui dérange le travail du Saint-Esprit dans mon ministère, dans ce que je fais. Je prends la décision, je choisis d'aimer et d'être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Quand j'ai énuméré le leader du monde et les leaders du royaume, ce n'est pas pour critiquer un serviteur ou bien un ministère. Non, non, non. C'est pour que nous puissions voir, pour ne pas répéter les fautes, les erreurs, mais pour mieux faire dans l'avenir. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu est en train d'élever une nouvelle génération de gens qui ont une mentalité du royaume de Dieu. Les gens qui ne cherchent pas à construire sa boutique, comme j'entends, sa boutique, chacun a sa boutique. Non, les gens qui cherchent à faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Que je suis là, je veux encourager d'autres ministères. Je suis là pour le bien-être du royaume de Dieu. Amen. En arrivant au sujet, il y a une personne là, je ne dirai pas le nom, il y a une personne qui sert Dieu dans ce pays, qui nous a, au début de notre arrivée ici, qui nous a vraiment mis les bâtons dans le roue. Il nous a mis les bâtons seulement dans le roue. Moi je dis, plus il met les bâtons dans le roue, plus je vais encore beaucoup plus l'aimer. Amen. Plus je ferai tout pour l'encourager, pour être une bénédiction pour lui. Mais il était étonné. Pourquoi? Parce que c'est pas le gens qui. Les gens n'agissent pas comme ça. Si tu mets les bâtons dans le roue, moi je te mets les bâtons dans le roue. Œil pour œil, dent pour dent. Non, la Bible ne nous apprend pas à vivre comme ça. Amen. La Bible nous apprend à aimer nos frères, à aimer nos sœurs, à être une bénédiction pour les autres. Je donne l'exemple de mon pasteur. C'est lui qui nous a appris ça à travers la Bible. Il y avait un groupe de pasteurs qui se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés et ils ont fait un film. Ils ont monté un film. Mais, aïe, aïe, aïe. Ils ont fait un montage. Parce qu'en Ukraine, il y avait une secte. Une secte qui a envoûté un grand nombre de personnes en Ukraine. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu des appartements, qui ont perdu parce qu'ils vendaient tous pour aller amener les sacs de l'argent dans cette secte et tout ça. Et c'était répandu partout. Et qu'est-ce que ce groupe de pasteurs ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un montage de ce secte et de l'église de l'ambassade de Dieu. Un montage vidéo. Ils ont même payé l'argent pour ça. Ils ont payé l'argent, ils ont fait tout, ils ont fait un montage. Pourquoi? Pour que le ministère d'autrui puisse discréditer le ministère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce disque-là, ils ont commencé à le répandre partout. Que tu voyais, voyez ce qu'ils font. Mais alors que c'était un montage fait. Parce que si vous voyez bien le film, vous allez comprendre, mais ça, c'est pas l'ambassade de Dieu, ça, c'est une secte. Vous vous rendez compte que votre église, vous êtes bien, vous priez le Seigneur, il y a quelqu'un qui vient, qui fait un montage d'une secte ici en France et votre église ensemble, et ils font prendre ces films et ils distribuent aux gens. Et quand le pasteur a su ça, le pasteur a su les gens, les serviteurs de Dieu qui ont fait ça. Il a dit, moi je veux faire comme pouvait faire Jésus-Christ dans cette situation. Je ne veux pas les haïr, mais je veux les aimer. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça, c'est pour que nous puissions savoir comment agir dans toutes les circonstances, frères et sœurs. Nous ne devons pas répondre le mal contre le mal. Amen. Nous devons répondre le bon, le bien. Le pasteur, quand il a su ça, il a dit à son administrateur, nous allons faire quelque chose, nous allons faire une opération. Opération du royaume. Il a dit, nous allons prendre des enveloppes. Nous allons prendre $1,000 et mettre dans ces enveloppes. Et d'une façon anonyme, donner à ces pasteurs-là. Et je prie pour eux, pour leur bénédiction. Que Dieu puisse le bénir et bénir leur ministère, que leur ministère qu'il prospère, que leur ministère avance. Il a commencé à prier pour eux, il a distribué sans que ces pasteurs connaissent, sachent. Tu te rends compte, toi, pasteur, tu vois une enveloppe, 1000 euros. Il a fait ça. Hein? Non. Ah, il a fait ça. Il a dit distribuer pour ces gens. Parce que je ne veux pas laisser passer dans mon cœur l'amertume, les rancunes et puis la colère. Non, 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 non. Je veux aimer. Mais frère, mais il y a de ces actes, il y a de ces principes qu'il faut faire, que les gens n'aiment pas faire. Des fois c'est dur, des fois c'est difficile. Mais si tu t'aimes, si tu veux voir l'expansion du royaume de Dieu, il y a de ces sacrifices qu'il faut le faire. Quand on nous fait du mal, nous on répond du bien. Amen. Mes frères, mes sœurs, apprenez à faire le bien. Surtout à ceux qui nous haïssent, surtout à ceux qui nous font du mal. Dieu seul sait quel est le résultat. Amen. Parce que, mes frères, quand on fait ça, on ne fait pas ça pour eux. On ne fait pas ça pour que ces gens. On fait ça pour soi-même, pour mettre en bon état son cœur. Amen. Et moi, je remarquais ça même dans ma conduite, dans ma vie. Je comprenais que les gens que j'ai compris que j'avais, il y avait quelque chose de. Que j'avais quelque chose qui m'avait offensé. Et quand j'ai commencer à garder cette rancune en moi, ça me dérangeait dans le ministère. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à les bénir, à les aimer? Ouf, Dieu m'avait libéré. Dieu m'a libéré et je commence à aimer ces personnes. Amen. Peut-être que vous avez quitté une église ou bien vous avez des conflits avec quelqu'un. Mes frères et sœurs, allez réconcilier-vous avec les autres. Réconciliez avec les pasteurs, avec les frères et sœurs. Amen. Ne gardez pas de quelque chose de mal en vous, tout ça. Gardez l'amour de Jésus-Christ en vous. Amen. Une question. Oui. La personne recommence. Mais quand vous essayez, la personne recommence. Deuxième fois, vous essayez, la personne recommence. Ben, vous laissez la personne. Donc, ce qui est bien, c'est que votre position devant Dieu, que vous soyez, que vous ayez la paix dans votre cœur. Parce qu'on n'est pas appelé à répondre le mal pour le mal. Amen. Nous devons toujours aimer nos frères et nos sœurs en Christ et puis garder nos cœurs. Donc, je disais ça pourquoi? Parce que je sentais que peut-être qu'il y avait quelqu'un que vous avez des problèmes avec un autre ministère ou bien avec un autre pasteur. En tout cas, ça serait mieux de toujours se réconcilier, d'être une bénédiction pour les autres. Amen. De garder son cœur dans la paix de Dieu. Amen. Que Dieu vraiment remplisse nos cœurs de ça. Même si je veux continuer et terminer, nous allons bientôt terminer, nous allons rentrer à la maison. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à partager. Mais j'aimerais qu'on puisse voir un thème qui est très très important, c'est le fondement d'une bonne influence. Amen. Le fondement d'une très bonne influence. C'est un thème qui est encore sous-thème de ce qu'on a vu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'influence, on a parlé d'aller conquérir les terres pour Jésus-Christ. Mais mes frères, il faut savoir que nous devons avoir un fondement pour une bonne influence. Amen. Nous devons influencer positivement dans la vie de la société. Nous sommes ceux qui amènent la lumière dans la société. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous amenons la lumière dans la société. Amen. C'est-à-dire que nous devons avoir un bon fondement pour que la société soit influencée d'une manière positive. Alléluia. C'est-à-dire que là où il y a le ténèbre, j'emmène la lumière. Là où les gens ne connaissent pas le Seigneur, moi j'amène l'évangile. Je suis un porteur du royaume de Dieu. Donc j'influence. Les gens ne m'influencent pas, mais moi j'influence là où je vais. Alléluia. Je viens, j'apporte le royaume de Dieu. J'apporte la joie, la paix. Mais avant d'aller influencer, je dois avoir un bon fondement. Amen. Je dois avoir un bon fondement. Tout le monde qu'on libère, tout le monde qu'on bénit pour aller commencer une œuvre, mes frères et mes soeurs, nous devons avoir un bon fondement. Nous devons avoir une plateforme, nous devons être fort dans la parole pour que notre influence soit efficace. On a remarqué que ce monde nous influence. Nous, on a remarqué que ce monde est rempli de convoitises. Ce monde est rempli de séductions. Et ces séductions, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pour arrêter le royaume de Dieu. Mais nous devons surpasser ces séductions. Nous devons surpasser ces convoitises. Parce que nous sommes la lumière. Amen. Et la Bible veut que nous puissions nous élever pour apporter la lumière de l'évangile. Alléluia. Pour emmener la lumière de l'évangile. Comment être un don? Pour être un don, je dois avoir un bon fondement. Pour pouvoir emmener une bonne lumière. Pour ne pas être influencé, mais influencer les autres. Je me rappelle dans notre église, il y avait un directeur de casino qui s'est converti. Mais frère, mais quand on cherche à amener le royaume, Dieu va nous donner des gens qu'on ne va même pas s'imaginer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un directeur de casino qui s'est converti, il est venu dans le Seigneur. Ah! Mais il a ce casino qui marchait. Et qu'est-ce qu'il a dit au pasteur? Il a dit, pasteur, je n'ai pas d'autorité devant les gens avec qui je travaille. Parce qu'ils me connaissent comme une personne qui vit avec eux, tout ça. Comme une personne pécheur. Je n'ai pas d'autorité. Mais toi, viens. Le pasteur a dit, je viendrai. Et le pasteur, chaque soir, il était dans le casino. Alléluia. Pour amener le royaume de Dieu. Essayez de raconter ça à un religieux. Il va dire, mais le monde... Le pasteur venait dans les casinos pour apporter la parole de Dieu. Dans les casinos. Mais dans un casino, c'est les gens peuvent t'influencer. Donc si tu n'as pas un fondement solide, tu peux tomber. Tu peux tomber dans la convoitise, dans la séduction, dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un fondement solide, il n'y a pas un fondement dur. Amen. C'est-à-dire que quand je me sens solide, quand je me sens prêt, mes frères et mes soeurs, nous devons aller influencer dans ce monde. Alors si nous n'avons pas cette force-là, vaut mieux attendre, vaut mieux prier, vaut mieux se préparer en conséquence. Je m'appelle un frère qui a dit, pasteur, j'ai envie d'aller prêcher les prostituées. Parce que j'ai envie, j'ai compassion d'eux. Je vais être un père pour eux. Je vais être une bénédiction pour eux. Bon, le pasteur a vu que le frère n'était pas encore prêt. Il a dit, non, attends. Non, pasteur, je veux. Ok. Il est parti. Aïe. Il est allé prêcher les prostituées. Au lieu d'influencer, les prostituées l'ont influencé. Au lieu d'apporter la lumière, cette lumière n'était pas une forte lumière. Et le ténèbre a englouti cette lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas fort. Parce qu'il n'était pas prêt. Mais frère, nous devons avoir un fondement pour une bonne influence. Amen. Et le frère, quand il est parti, après quelques temps, il est revenu. Il a dit, pasteur, vraiment, il y a un malheur qui est arrivé dans ma vie. Et ce malheur, c'est encore pire. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été contaminé du sida. Il a été contaminé. Donc sa vie était gâchée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un bon fondement pour une bonne influence. Mes frères et mes sœurs, ce monde a une influence forte. Ce monde a été conçu pour nous influencer. Il faut voir les publicités qui passent dans la télé. Il faut voir tout ce qu'on voit autour de nous. Le diable aujourd'hui utilise le média. Le diable aujourd'hui utilise ça pour nous influencer. Ce monde est un monde d'influence. Ce monde est en train de nous forcer à penser comme il pense. À nous manipuler. Que notre façon de voir les choses corresponde à leur façon de voir les choses. C'est une influence. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous devons être solides. Nous devons être forts dans la parole de Dieu. Nous devons vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu pour que notre influence soit forte et efficace. Amen. Le fondement d'une bonne influence. Alléluia. Donc nous sommes appelés à influencer dans ce monde. Nous allons voir quel est le fondement que je dois avoir pour influencer positivement dans cette société. Parce que quand on parle aujourd'hui de l'évangile, du fait que nous devons apporter l'évangile du royaume, nous devons sortir de nos quatre murs, nous devons influencer ce monde, mes frères et mes sœurs, là où il y a la convoitise, là où l'ennemi, là où le malin tient ce monde, nous devons être forts. Pourquoi? Parce que ce que nous disons ne conforme pas au principe de ce monde. Ce monde contredit radicalement ce que nous sommes en train de prêcher. C'est pour ça que nous avons besoin vraiment de l'aide de l'Éternel. Nous avons besoin vraiment de s'enraciner, d'être fort dans le Seigneur. Amen. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut, mes frères? Nous devons avoir l'art de la maîtrise de soi. Ça, c'est très important. La maîtrise de soi. Pour une bonne influence, nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous allons voir Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32. Pour une bonne influence, nous devons avoir la maîtrise de soi. La Bible dit ici, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Amen. La Bible dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. La Bible parle ici de deux catégories de personnes. C'est celui qui prend une ville et celui qui se domine lui-même. Donc celui qui a la victoire dans sa vie. Celui qui a la maîtrise de soi. L'art de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que la personne qui sait se maîtriser, maîtriser ses sentiments, maîtriser ses émotions, maîtriser ses faiblesses. La Bible dit que cette personne, elle est beaucoup plus, elle est mieux que celui qui conquiert des villes. Amen. On voit ici, la Bible nous dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui domine, qui se domine, vaut mieux que celui qui prend une ville. Pourquoi? Parce que celui qui prend une ville et il n'a pas dominé sur lui-même, aujourd'hui il a une ville, tôt ou tard il tombera. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu gagner lui-même. Il n'a pas pu vaincre les faiblesses de sa vie. Il n'a pas pu vaincre ses faiblesses. Il n'a pas pu se vaincre. Nous devons aujourd'hui apprendre à nous vaincre nous-mêmes, à nous dominer nous-mêmes, avant d'aller conquérir ce monde, avant d'aller influencer dans ce monde. Amen. Alléluia. Nous devons nous vaincre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la première victoire que nous devons vaincre aujourd'hui, c'est la victoire sur soi-même. Ce monde aujourd'hui a besoin de gens qui vont se vaincre, qui vont dominer sur ses émotions, dominer sur ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'on entend beaucoup les gens qui tombent, celui-là est tombé, celui-là est parti. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas su vaincre, se dominer soi-même. Donc ils se sont précipités à prendre des villes, à gagner des villes, mais soi-même au plus difficile, très difficile. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Et l'œuvre de Dieu avancera aujourd'hui lorsque je me dominerai moi-même. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Devant le péché, résister devant le péché. Devant la convoitise, devant toute la séduction, résister, dire non. Que Dieu m'a racheté, je ne veux plus retourner dans cette vie-là. Dieu m'a racheté, Dieu m'a lavé, je ne veux plus vivre dans la fornication, je ne veux plus vivre dans l'adultère, non, j'ai dit non. J'ai pris la décision de suivre le Seigneur. Donc, je me domine moi-même, la maîtrise de soi. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. C'est très important pour notre avancement. C'est très important pour une bonne influence. Pourquoi parce que ce monde est fort dans l'influence. En particulier dans le moment que nous vivons aujourd'hui. Dans le moment que nous voyons l'Internet. Nous voyons beaucoup de choses qui nous entourent. Soit disant d'un côté c'est bien, mais de l'autre côté ça détruit nos vies, ça détruit nos valeurs. Hier j'ai entendu une histoire, que il y a les gens qui vivaient dans le monde, quand ils étaient dans le monde, les choses qu'ils font maintenant, c'est encore pire que quand ils étaient dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le manque de maîtrise de soi. Le manque de maîtrise de soi. Mes frères et mes sœurs, nous devons apprendre à maîtriser soi-même. À se maîtriser soi-même. Et quand je me maîtrise moi-même, j'apporte une bonne influence. Amen. J'apporte une bénédiction, une bonne influence. Bien sûr, il y a des faiblesses. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas tolérants à des faiblesses secrètes dans votre vie. Pourquoi? Parce que si vous ne les avez pas vaincues aujourd'hui, demain ils viendront réclamer. Donc vous avez le choix. Ou bien ces faiblesses vont vous vaincre, ou bien c'est vous qui allez gagner. Faites le choix. Ou bien vous les combattez aujourd'hui pour le vaincre, pour mettre fin à ces faiblesses. Ou bien c'est sans ces faiblesses, demain ils vont vous dominer. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, je vous dis une chose. Il y a de ces faiblesses qui apparaissent seulement à un certain moment. Que aujourd'hui, vous êtes calme, tout va bien. Tout va bien. Mais ils apparaissent seulement à un certain temps. Ils apparaissent quand, vous voyez, le ministère est en train de s'évoluer. Ils apparaissent quand le ministère est en train d'avancer. Ils apparaissent. Pourquoi? Parce que vous vous êtes toléré avec cette faiblesse dans votre vie secrète. Quand il n'y a personne qui vous voit, vous êtes seul et vous avez toléré cette faiblesse-là. Aujourd'hui, vous ne l'avez pas vaincu. Vous n'avez pas gagné sur cette faiblesse. Demain, elle viendra. Et dira, tu ne m'as pas vaincu. Tu ne m'as pas gagné. Moi, je viens te faire le combat aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu dans la vie d'Adam et Ève aujourd'hui. On a vu que, on a lu que Ève était en train de regarder ce fruit-là. Et ce fruit était agréable. C'était agréable aux yeux. Et donc, ce fruit, plus elle regardait le fruit, plus ce fruit avait de l'influence dans sa vie. Parce que c'était agréable à la vue, c'était agréable, bon pour manger, pour la chair, et c'était bien pour, parce qu'il va donner les connaissances. Donc il y a trois choses que le diable cherche à tout prix pour détruire notre vie. Un, c'est la convoitise des yeux. On va voir, c'est dans 1 Jean 1, 17. Alléluia, vous êtes ici avec moi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons voir 1 Jean 1. Voilà, c'est 1 Jean 2 à partir du verset 15. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. On voit trois choses ici. Un, c'est la convoitise de la chair. C'est pour satisfaire sa chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Oh, des yeux. C'est beau. La chair, c'est pour satisfaire la chair. La convoitise des yeux, c'est pour les yeux. Oh, c'est très beau. Si vous avez regardé, le diable, lui, il cherche toujours à nous attirer avec des choses extérieures. Avec la publicité, avec des belles choses. Mes frères, mais c'est tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Amen. Amen. Mais le diable cherche à nous attirer avec de l'or, avec des choses qui brillent. Ah, c'est bien beau. Et quand il nous attire, c'est en ce moment-là qu'il va détruire l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est pour ça que, premièrement, je dis que non, pour une bonne influence, il faut que j'ai la maîtrise de soi. Il faut pas que j'aime ce monde. Et tout ce qui est dans ce monde. Et deuxièmement, on a parlé de la convoitise des yeux. Et troisièmement, c'est l'orgueil de la vie. Quand Ève voyait ce fruit, il y a le diable qui est venu avec sa ruse. Le diable dit que non, si vous mangez ce fruit, ça va vous donner de l'intelligence. C'est-à-dire l'orgueil. Je serai plus intelligent que les autres. Les gens vont m'écouter. Voilà, j'aurai une bonne église. Je serai plus fort que les autres. J'aurai de l'influence. Ha ha ha. Le diable propose toujours de l'influence. C'est ce qu'il a proposé à Jésus. Il a dit que toi, viens seulement t'adorer devant moi. Je te donne toute la ville ici. Je te donne. Non, mes frères, on ne peut pas maîtriser soi-même devant, on ne peut pas résister devant le péché, on ne peut pas résister devant nos faiblesses, mon frère, nous ne pouvons pas emmener une bonne influence. Amen. C'est pour ça, premièrement, pour une bonne influence, il faut la maîtrise de soi. C'est très important pour une bonne influence. Amen. Amen. On va encore lire le verset qu'on a lu, c'est dans Proverbe. Proverbe 16. Proverbe 16, le verset 32. La Bible dit que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Nous devons être les gens qui cherchent premièrement à se dominer. La ville, nous allons les prendre. Amen. Qui est d'accord avec vous qu'on va prendre les villes? Les villes, on les prendra. Ce n'est pas un problème. Mais nous devons premièrement nous dominer nous-mêmes. Amen. Il faut que le caractère de Christ vienne en moi. Il faut que les fruits de l'esprit soient en moi. Amen. Ok. Premièrement, on a parlé de la maîtrise de soi. Deuxièmement, comme fondement d'une bonne influence, c'est être fidèle dans ce que vous faites aujourd'hui. Être fidèle dans le ministère que vous avez aujourd'hui, dans la tâche que Dieu vous a donnée aujourd'hui. Être fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de vous tester. Est-ce que tu es fidèle? Nous allons voir dans Luc. Luc 16, 32. Non, Luc 16, 12. Luc 16. Luc 16, 12. La Bible dit, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Dieu, des fois, nous teste dans les choses d'autrui, dans la vision d'autrui. Est-ce que tu seras fidèle dans un autre travail, dans le travail de notre pasteur? Est-ce que tu seras fidèle dans cette vision-là qui ne t'appartient pas, mais c'est à autrui? Est-ce que tu es fidèle à faire ce travail-là? Et la Bible dit, mais qui vous donnera la vôtre si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient à un autre? Donc la Bible veut nous apprendre à être fidèle. Pourquoi? Parce que plus je suis fidèle, plus il y a une garantie que Dieu me donnera le mien. Amen. Amen. Donc je dois garder la fidélité. Je dois être fidèle. Je vais encore y lire. C'est Luc 16, 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Qui vous donnera ce qui est à vous? Mes frères et sœurs, il y a nos bénédictions, il y a nos terres que nous devons conquérir. Mais il y a un chemin que nous devons emprunter. Il y a deux places là où Dieu nous a placés. Et on ne peut pas hériter de ces bénédictions si nous ne sommes pas fidèles là où nous sommes aujourd'hui. Amen. Nous devons apprendre à être fidèles dans les choses d'autrui, dans le travail d'autrui. Des fois, c'est difficile d'être fidèle, mais ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine de faire le travail. Ça vaut la peine d'être une bénédiction dans le travail d'autrui. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il va. Il va me faire sortir de ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'en étant fidèle dans le travail d'autrui, Dieu m'apprend quelque chose. Dieu me forme. Dieu change ma façon de penser. Dieu change ma façon de parler, ma façon de voir le culte, de voir le ministère. Dieu me change. C'est comme on a vu aujourd'hui, quand on a lu aujourd'hui avec Josué. Dieu est venu chez Josué et dit, Josué, mon serviteur Moïse, toi assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant c'est à toi aujourd'hui d'aller et de conquérir cette terre. Ton temps est arrivé. Tu as été fidèle dans les choses d'autrui. Tu as été fidèle dans les choses, dans les moindres. Et je te donne aujourd'hui cette responsabilité d'être une bénédiction pour le peuple. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un bon fondement pour une bonne influence. On peut voir aussi dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. Matthieu 25, le verset 33. Non, non, non. Le verset 23. Son maître lui dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans les moindres, dans peu de choses. Parce que Dieu nous teste dans les peu de choses. Est-ce que je suis fidèle? Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas fidèle dans le moindre ne peut pas faire un grand travail. Il ne pourra pas faire un grand travail. Amen. Et Dieu va nous confier des fois des tâches. On va se dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu me donnes ce ministère? Je me rappelle quand j'ai commencé à l'église de l'ambassade de Dieu. J'ai servi à l'accueil. J'étais à la porte pour recevoir les gens. Mais avant ça, je prêchais déjà dans des églises, je prêchais déjà dans des conférences, on m'invitait déjà à prêcher. Et quand je suis venu dans l'église de l'ambassade de Dieu, je me suis dit, oh, mais comme je prêchais déjà, donc, je suis là, je serai déjà un leader, un pasteur, tout ça, mais je me voyais déjà plus haut. Dieu m'a dit, non, tu dois commencer dans le moindre. Et j'ai commencé à l'accueil. J'ai commencé à balayer la salle. Après les cultes, quand tout le monde rentrait à la maison, moi j'ai balayé la salle. Le culte terminait, par exemple, à 17h, moi je rentrais à la maison à 21h, 22h. Pourquoi? Parce que je balayais. Et je sais que je faisais ça devant le Seigneur parce que j'aime le Seigneur. Et Dieu me voyait. Dieu voyait le travail que je faisais. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas me confier quelque chose de grand si je ne suis pas fidèle dans le moindre. Je me rappelle quand j'ai vu l'église à Kiev, il y avait un gars qui est venu qui dit, pasteur, moi, je lui ai demandé, quel est le ministère que tu veux? Il dit, moi, je veux prêcher la parole. J'ai dit, avant que tu prêches la parole, il faut aller laver les toilettes quand même. Il faut commencer par ça. Mes frères et mes sœurs, Dieu va nous tester. Amen. Bien sûr, chacun, ça dépend de notre croissance. Dieu va toujours nous tester pour voir quel est le fin fond de nos cœurs. Et j'ai commencé avec l'accueil, et puis à un certain moment, j'ai commencé à balayer la salle. Je faisais ça devant le Seigneur. Et il y a un moment, Dieu m'a vraiment ouvert les portes. Dieu m'a ouvert les portes et j'ai dû devenir pasteur et puis assistant et puis je suis entré même dans l'équipe dans le conseil spirituel de l'église. Mais tout a commencé petit à petit. Amen. C'est ce qu'on appelle la fidélité, être fidèle dans le moindre et être fidèle dans les choses d'autrui. Amen. Je fais un bon travail, même si c'est sa vision, c'est lui qui est responsable, mais je fais un bon travail. Même s'il n'a pas cette vision-là du royaume, mais Seigneur, tu sais quand est-ce que tu vas me faire sortir de ce ministère. Amen. Il y aura un moment où Dieu dira, voilà, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ton cœur, je t'ai testé, j'ai vu ça. Il est temps aujourd'hui d'aller. Je te donnerai ton ministère, je te donnerai ta terre. Amen. Et ça, si on a dans nos cœurs cette fidélité, c'est une bonne chose pour une bonne influence. Amen. Pour une bonne influence. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas fidèle, vous allez remarquer que nous avons toujours besoin des gens fidèles. Amen. Et si nous avons besoin des gens fidèles, nous devons nous-mêmes être fidèles. Amen. Comment on peut exiger aux gens d'être fidèles si nous-mêmes on n'a pas été fidèles dans les choses d'autrui? C'est-à-dire que ce que je sème, c'est que je récolte. Je suis fidèle dans le service d'autrui et Dieu me donnera des gens fidèles dans mon ministère, dans ce que je fais. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, quand tu sais que je sème, c'est ce que je veux récolter. Amen. Il y a un gars qui vient, qui est un pasteur, qui vient, qui me dit vraiment, Robert, je suis sorti, je suis... Il est sorti d'une église, il a pris une grande quantité de personnes. Il a dit, allons-y, allons conquérir le pays. il a fait le rebelle, il est sorti, tout ça. Mais il a semé ça dans la vie d'une autre personne. Et après quelques temps, il a remarqué que la même aventure qu'il a fait, il y a quelqu'un dans l'église qui commence à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait semé ça. Il a semé. C'est pour ça au début, je vous ai dit que mes frères, nous devons toujours rendre le bien au lieu du mal. Nous devons toujours rendre le bien. Amen. Ce sont des principes bibliques. Et ce sont des principes qui travaillent. Parce que la parole de Dieu travaille. Elle travaille. Dieu est bon. Dieu nous aime. Mais la parole travaille. Amen. Elle est toujours en action. C'est pour ça, mes frères, nous devons toujours être fidèles dans ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Amen. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut pour avoir une bonne influence? Pour avoir une bonne influence, nous devons avoir une position active dans la société. Une position active dans la société. Quand je dis position active dans la société, c'est-à-dire je dois être informé de tout ce qui se passe dans ma société et prier pour ça. Prier pour les événements qui se passent dans ma société. Prier pour tout ce qui se passe dans ma vie. Amen. Dans la vie de ma société, dans la vie du quartier, dans la vie de la ville, là où je suis, là où Dieu m'a planté. De connaître les informations, de quoi je peux prier aujourd'hui. Prier pour le peuple, prier pour les enfants, les jeunes. Si je remarque qu'il y a la délinquance qui s'élève, en tout cas je dois être positionné, que savoir pourquoi il y a la délinquance. Je prie pour ça, je prie contre ça. Je prie pour la jeunesse, pour que la jeunesse, vienne au Seigneur. Amen. Il y a un moment de prier et il y a un moment d'être en action. Amen. Donc, avoir une position active dans la société. Pourquoi avoir une position active dans la société? Parce que je suis citoyen de cette société. Amen. Et on a vu avec vous au début que je dois m'identifier avec ce peuple. Donc, avoir une position active, c'est-à-dire que je m'identifie avec ce peuple. Tout ce qui se passe me concerne moi. Amen. Tout ce qui se passe, ça me concerne. Je ne suis pas un peuple à part. Bien sûr, Dieu nous a mis à part, mais je suis citoyen de ce peuple. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit? Premièrement, pour un bon fondement, qu'est-ce qu'il faut premièrement? La maîtrise de soi. Et deuxièmement, c'est quoi? La fidélité. Troisièmement, savoir avoir une position active dans la société. Une position active dans la société, c'est ne pas être indifférent de tout ce qui se passe dans la société. Non, je ne suis pas indifférent dans tout ce qui se passe dans la société. Amen. Ok. Maintenant, mes frères et sœurs, j'ai envie de partager avec vous comment faire aujourd'hui pour influencer dans notre société. Amen. Comment faire pour influencer dans notre société? Je crois qu'ils sont des points qui vont nous aider dans notre ministère, dans nos églises et dans tout ce que nous faisons. Amen. Comment je dois faire pour influencer dans la société? Comment je dois faire pour influencer dans la société? Ok. Par exemple, vous avez une association, vous voulez créer une association, vous avez une église. Premièrement, mes frères et sœurs, vous devez chercher quel est le problème de cette société. Amen. Vous devez connaître quel est le problème de cette société. On n'a que 5 minutes, bientôt on va terminer, ok? Nous devons connaître quel est le problème de la société. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans ce monde, c'est résoudre le problème. Amen. Résoudre le problème. Qu'est-ce que les politiciens font? Ils résolvent les problèmes économiques, ils résolvent les problèmes sociaux, ils résolvent les problèmes. C'est-à-dire, nous devons chercher quel est le problème aujourd'hui dans l'environnement là où je vis. Amen. Quel est le problème là? Par exemple, il y a le problème de divorce. Il faut résoudre ce problème. Par exemple, il y a le problème de la drogue. Il faut résoudre ce problème. Il y a le problème de femmes, disons, de la prostitution. Il faut résoudre ce problème. Amen. C'est-à-dire que si j'ai une église, par exemple, je me retrouve dans une ville comme la ville de... Prenons quelle ville? Ah, voilà. Prenons la ville d'Argenteuil. Ok. On va voir. Quel est le problème dans la ville d'Argenteuil? Quel est le problème que nous, comme église, on peut apporter comme solution? Quel est le problème? Le jeûne, hein? Ok. Nous avons commencé à prier pour le jeûne d'Argenteuil. Parce qu'on a remarqué qu'il y a la délinquance. En particulier à Saint-Denis ici. Vraiment, c'est un grand problème. Nous devons commencer à prier pour ce problème. Et chercher la solution à ces problèmes. Mes frères, mes soeurs, je veux dire que comme il y a le problème à Argenteuil, le problème de jeûne, vous avez dit problème de jeûne. Vous devez savoir, pasteur, que dans votre église, il y a des gens qui sont appelés à résoudre ce problème. Mais leur potentialité, peut-être qu'ils ne sont pas encore libérés. Mais il y a des gens qui sont appelés à résoudre ce problème. Quel est le problème encore dans Argenteuil? La drogue. Voilà, il y a la drogue. Peut-être qu'il y a des anciens drogués qui sont venus, qui sont convertis. Et eux, ils ont la clé pour pouvoir résoudre ce problème. Et quel est le problème qu'on a encore? Donc, frères et sœurs, pour pouvoir influencer, nous devons chercher à résoudre le problème. Bien sûr, on ne peut, pour résoudre le problème, nous devons avoir une réponse. Amen. À ce problème. C'est-à-dire que nous devons prier, Seigneur, donne-nous une réponse à ce problème. Tout commence par la prière. Et puis après, Dieu va commencer à nous donner des outils pour pouvoir résoudre ce problème. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous disons, voilà, nous sommes des gens spirituels, nous sommes à l'église, nous sommes un monde à part. Non, le problème d'Argenteuil, c'est mon problème à moi. Je suis le pasteur d'Argenteuil. Amen. Le problème de cette société me concerne moi. Amen. Et puis, pour encore avoir de l'influence, mes frères et sœurs, nous devons chercher à connaître toutes les institutions d'Argenteuil. Par exemple, les écoles d'Argenteuil, s'il y a des prisons, connaître s'il y a des prisons d'Argenteuil, s'il y a des écoles primaires. Donc, avoir une base de données d'Argenteuil. Amen. Quand j'avais l'église à Kiev, dans l'arrondissement ou bien dans la villa où Dieu m'avait donné, on avait les bases de données de toutes les institutions. Les écoles maternelles, la crèche, tout. Et on priait pour toutes ces institutions. Pourquoi? Parce qu'on a compris que non, si nous sommes là comme église, nous sommes une réponse aux besoins de ces institutions. Amen. Il y avait la ville là où je suis. Commencez déjà aujourd'hui à prier, Seigneur, donne-moi les clés de tous les problèmes de ma ville. Donne-moi la solution. Peut-être qu'aujourd'hui je ne vois rien. Mais Seigneur, je sais que tu peux attirer autour de moi des gens qui ont la solution. Les gens que je vais aider, les gens qui vont travailler avec moi et on aura la solution au problème de la ville là où je suis. Peut-être qu'il y a des hôpitaux, il faut que je rencontre, il faut que j'aille prier pour les malades. Peut-être qu'il y a des prisons, il y a des prisonniers, il faut que je prépare, demander comment est-ce que je peux
avoir accès à ces prisons pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Amen. Peut-être qu'il y a, des institutions qui travaillent avec les jeunes. Comment est-ce que je peux faire pour avoir accès là-bas, pour pouvoir parler avec les jeunes? Amen. Voilà, de cette manière-là, nous sommes une réponse pour la société. Amen. Voilà l'évangile du royaume de Dieu. Nous travaillons pour la société. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit beaucoup d'associations, mais ces associations sont conduites par les non-croyants, mes frères et sœurs, ils ne peuvent pas apporter une influence de du royaume. Bien sûr, il y a beaucoup d'associations, mais nous, comme chrétiens, nous devons créer aussi des associations. Amen. Dans l'église, avant que je quitte, il y avait 3000 cellules de maison, 3000. Et le pasteur a dit, il faut qu'il y ait 3000 associations. 3000 associations dans différentes directions. Les femmes, les enfants, le jeune, les SDF. Et le but de ces associations doit être une réponse pour leur bien-être. Être une réponse pour la société. Amen. Voilà l'évangile du royaume de Dieu. Et la Bible dit que quand l'évangile du royaume de Dieu sera prêché partout dans le monde, en ce moment-là viendra la fin. Amen. Nous sommes appelés aujourd'hui à répandre cet évangile du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on peut élever notre voix devant le Seigneur? Qu'on peut élever que Seigneur Jésus-Christ, tu m'as donné, tu m'as enseigné aujourd'hui. Fais de moi une réponse aujourd'hui. Je veux être la clé. Je veux être une réponse pour le bien-être. Le bien-être de la vie de ma société. Je veux être une réponse, Seigneur. Je ne veux pas m'enfermer seulement dans ma ville, dans ma chambre, mais je veux aujourd'hui sortir des murs. Je veux aujourd'hui être une réponse pour la société. Je veux aujourd'hui dans mon église que les gens ouvrent des associations, des entreprises, qu'ils deviennent une réponse pour le besoin de la société. Pourquoi? Parce que nous sommes là pas pour rien. Nous sommes là pour être une source de bénédiction pour notre ville, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité d'écouter cet enseignement, Seigneur. Car tu nous as appelés aujourd'hui à être une source de bénédiction pour notre ville, pour la France, pour la Belgique, pour l'Europe, Seigneur. Aide-nous à nous lever aujourd'hui, Seigneur. Donne-nous ces possibilités, cette capacité, Seigneur, d'aller plus loin, de sortir de nos quatre murs, de nos limitations, d'aller plus loin, d'élargir nos cordages dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous voulons être une source de bénédiction. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. S'il me faut ouvrir une association, je le ferai pour ta gloire. S'il me faut aller chez le maire, j'irai, Seigneur, pour ta gloire. S'il me faut, Seigneur, organiser quelque chose, je le ferai, Seigneur. Je ferai selon le désir que tu vas mettre dans mon cœur, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'aimons, nous t'élevons, Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne dans la politique, dans l'économie, dans la vie sociale, dans la vie des jeunes, des hommes et des femmes. Que ton règne vienne, que tu puisses toucher le cœur de gens, Seigneur, parce que aujourd'hui tu veux utiliser une nouvelle génération pour, Seigneur, apporter l'évangile du royaume dans ce pays, Jésus-Christ. Nous te glorifions, alléluia, alléluia, Jésus-Christ. J'invite le pasteur à prier. Est-ce que vous pouvez prier, pasteur?
Alléluia. Et nous allons. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Seigneur, tu nous as béni ces enseignements très très riches pour pouvoir, à base de cet enseignement, reprendre le royaume en France et en Europe ici. Seigneur, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Et Seigneur, si nous pouvons aller loin, sauf que ton esprit nous conduit. Et Seigneur, ces enseignements que nous avons eus, Seigneur, que tu les inscris sur nos cœurs. Quand ça sera le désir de nos cœurs, c'est à travers de cela que nous pouvons aller plus loin. Seigneur, aide-nous, donne-nous le courage, donne-nous la force, Seigneur, afin qu'on puisse vaincre cette timidité qui nous a envahis depuis longtemps. Mais Seigneur, si tu nous donnes le courage, hein, la force de lion, Seigneur, la force de l'aigle, Seigneur, on peut aller loin à travers le Christ qui nous fortifie. Seigneur, ce soir que nous sortons d'ici, Seigneur, nous sortons comme des gens renouvelés dans nos pensées pour pouvoir aller loin, à conquérir la territoire à ta gloire. Seigneur, nous nous séparons d'ici, mais nous sommes toujours dans ta présence. Seigneur, aide-nous afin que l'enseignement qu'on a reçu ici, hein, on puisse le développer pratiquement. Seigneur, ça ne sera pas théoriquement surtout, mais pratiquement, afin que Seigneur, les œuvres puissent avancer. Que ta main protectrice soit sur nous. Nous glorifions ton saint nom pour ce que tu nous as donné ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.